Donc, première grande partie, Matthieu 3, 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il avait dit, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham, car je vous dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son air, recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » C'est vraiment Jean-Baptiste, décrit par un des évangélistes. En fait, il y a des passages qui décrivent Jean-Baptiste dans des termes à peu près similaires dans les quatre évangiles. J'ai gardé celui de Matthieu parce qu'il est relativement détaillé, finalement. On a un petit peu tous les éléments. Donc le prophète, c'est celui qui prépare la venue de Dieu sous toutes ses formes. Donc ça va être la venue d'abord dans les cœurs. Quand on fait référence aux montagnes qui vont être aplanies, la montagne, ça désigne l'orgueil humain. Aux ravins qui vont être comblés, les ravins, c'est ce qu'on cache. C'est les grottes, vous savez, les gens qui se cachent dans une grotte, dans les fentes d'un rocher. Dans la Bible, ça désigne quand on fait exprès d'occulter les choses qui ne vont pas dans notre vie, on les écarte. Et puis on va se réfugier dans d'autres choses, dans le plaisir, dans des occupations finalement qui sont moins importantes. Et le prophète, il est là pour dire, vous allez voir, le règne de Dieu va arriver, donc vos cœurs, faut qu'ils soient prêts à accueillir le Seigneur, parce que ce contact entre le Seigneur et vous va être un choc difficile à supporter si vous n'avez pas un cœur comme une mer calme. Voilà, le prophète, c'est ça. Il prépare les cœurs, il est la voix du Seigneur. Et c'est vrai que la voix avec un grand V, c'est Jean-Baptiste, c'est celui qui crie dans le désert, on se demande pourquoi les gens le suivent, parce qu'il est dans un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller de prime abord. Voilà, ça c'est le prophète. Petit A du grand 1. Le désert, le lieu du prophète. Donc on verra après, donc par rapport à Jean-Baptiste, on verra son vêtement en poil de chameau, en B. En C, on verra la ceinture de cuir qu'il porte autour des reins. Et puis après, on verra de quoi il se nourrit. Donc, le désert, lieu du prophète, Jean, il baptisait dans le désert, et en grec, alors je ne parle pas grec, mais il y a des notes dans certaines bibles qui le disent, c'est Jean plongeait ses auditeurs dans le désert, c'est-à-dire qu'il y a un double sens. Premier sens, dans le désert, il les baptisait d'un baptême de conversion, c'est-à-dire d'un geste annonciateur du vrai baptême, il préparait les cœurs à un vrai baptême, comme il y avait des éléments dans la tradition juive qui préparaient le Christ, qui préparaient la Vierge Marie, qui préparaient la croix, qui préparaient un certain nombre de choses pour sauver l'humanité. C'est un plan qui se déploie dans le temps. Donc lui, il préparait à la fois avec le baptême de conversion et à la fois il plongeait les auditeurs dans le désert pour les imprégner de ce lieu dont on a besoin pour notre vie spirituelle. C'est le lieu par excellence où résidait le peuple hébreu, enfin libéré de l'esclavage. Voilà, Moïse a été suscité comme prophète par le Seigneur pour décroter le peuple hébreu de ses mauvaises habitudes qu'il avait prises en terre d'Égypte, et puis pour petit à petit reprendre les droits de Dieu sur Pharaon, qui avait acquis des droits sur le peuple hébreu. Donc symboliquement, on peut se dire, c'est comme Satan qui avait acquis des droits sur l'humanité et le prophète est là pour petit à petit grignoter sur les droits du démon qui... parce que comme tout le monde le suit, bah c'est comme si c'était lui le chef des personnes. Et le prophète, comme Moïse, qui va grignoter petit à petit à Pharaon des éléments, à la dernière plaie, la dixième plaie, il va avoir le droit de faire sortir le peuple en entier. Voilà. Le prophète, c'est ça. Donc le désert est un passage... obligatoire une fois qu'on est sorti de ses mauvaises habitudes pour pouvoir se retrouver soi-même, pour pouvoir refaire son intimité. parce qu'on a été libéré de quelque chose. Alors le terme désert en hébreu, ça en fait désigne un lieu non cultivé. C'est pas tout à fait le même mot que chez nous. Le désert, on pourrait dire, c'est la campagne, en quelque sorte. Parce que pour eux, tout ce qui n'était pas cultivé, c'était le désert. Donc les montagnes, c'était le désert. Et il y avait des déserts qui étaient fertiles et des déserts arides. Et certains, effectivement, étaient très beaux et fertiles en pâturage, surtout à l'époque du Christ. Et il y a quelque chose qui peut nous tromper aujourd'hui, c'est que le pays de Jésus est plus désertique que ce qui était le cas à l'époque du Christ, en fait. Et le désert aride là-bas, sauf aux alentours de l'Égypte, mais disons dans le pays, dans la Palestine, n'est pas fait de sable, mais plutôt de massifs calcaires. C'est une sorte de garrigue inculte, un peu comme on a dans le sud de la France, dans certains coins. Si vous avez vu La gloire de mon père ou Le château de ma mère, Marcel Pagnol, et ben en fait les déserts, ça ressemble beaucoup à ça. Donc il y a des rares sources, et c'est le lieu des bêtes sauvages, c'est-à-dire de la tentation, c'est-à-dire je vais faire silence pour rentrer dans un désert à titre individuel, où un peuple va rentrer dans un désert, l'Église par exemple, qui est secouée par des scandales, et rentre dans une démarche d'humilité, et elle est secouée par des bêtes sauvages, c'est-à-dire par des moqueries, par des tentations, par des distractions. C'est ça les bêtes sauvages qui symboliquement sont nommées dans la Bible. Dans le Deutéronome chapitre 32, on a « Mais moi je vais conduire mon peuple au désert, dans ce pays rempli de hurlements sauvages. » Parce qu'il y a une vertu particulière de pouvoir être mis dans ce lieu où, comme on est confronté à ceux qui viennent nous embêter parce qu'ils n'aiment pas qu'on soit dans le désert, parce qu'on a chassé de notre vie le bruit, on a chassé les occupations superflues, et on va être tenté, et c'est là qu'on va monter d'un étage en fait. Et quand on aura traversé le désert, on sera à un niveau spirituel supérieur par rapport à avant le désert. Donc par exemple, je suis dans ma voiture et je prends un moment de silence pendant mon quart d'heure de trajet, et bien ce petit désert, sans le savoir, m'aura fait monter un petit peu. Enfin, j'en profite pour penser au Seigneur, pour contempler la nature, pour demander au Seigneur de venir visiter les gens qui m'entourent sur la route ou autre, eh bien, sans le savoir, le Seigneur m'aura nourri l'âme pour me faire monter un petit peu plus vers lui, si j'ai réussi à contrer ces bêtes sauvages qui sont l'envie, par exemple, de m'énerver contre un autre automobiliste, l'envie de râler contre ma belle-mère et l'envie de critiquer mon chef dans ma tête, eh ben, j'aurais réussi à acquérir un petit peu plus cet instinct prophétique, parce que le prophète refait ses forces dans le désert. Voilà. Le désert, c'est le lieu où le prophète se rassemble pour trouver ce que le Seigneur lui donne. Alors, on a en fait deux situations. On a le peuple hébreu sorti d'Égypte qui est tenté de récriminer contre le Seigneur parce qu'il a faim, qui est tenté aussi de dire pourquoi nous on se tournerait pas vers d'autres dieux. Voilà. Et en fait, les tentations que subit le peuple hébreu, Jésus va revivre la même chose et va les concentrer en lui-même. Et les trois tentations qu'il va avoir, en fait, il n'y en aura pas que trois, je pense. On peut imaginer que sur les 40 jours, il a eu bien des tentations, mais si on doit les résumer, et c'est ce qu'ont fait les évangélistes, je pense, on peut les résumer à trois grandes tentations, qui sont un peu trois grands sujets de récrimination. Et Jésus va vaincre le démon sur ce lieu de tentation, où le peuple avait échoué, et tout le peuple avant Jésus avait échoué, et Jésus, lui, va venir réparer en revivant la même chose, en fait. Donc la première épreuve avec, finalement, arrête de jeûner pour offrir tes futures souffrances, pour offrir ta future mission, pour offrir tes trois futures années de vie prophétique à évangéliser, à faire des miracles. Arrête de jeûner et puis prends le temps de te faire peut-être pas une bonne bouffe, mais parce que le démon est subtil, il dit « change ces pierres en pain », il imagine bien que Jésus est un prophète. Mais voilà, la tentation est là et Jésus arrive à nous montrer que le prophète qui sait profiter des bons côtés du désert, il a cette capacité d'être insensible à un certain nombre de tentations. Parce que le prophète, il se réfugie dans ce désert, c'est-à-dire dans sa chambre où il n'y a pas de bruit, ou dans sa voiture où il a éteint la radio. Il a mis son téléphone sur mode avion, donc il peut pas avoir normalement de sollicitation. Il a vérifié qu'il y avait encore de la batterie, donc il n'aura pas une sonnerie qui dit « j'ai plus de batterie ». Voilà, le prophète, il fait ça. Et en plus, le prophète, il se réfugie dans son intériorité, dans son désert, dans son cœur, pour rencontrer le Seigneur. Voilà. Et c'est là que il a cette capacité de vaincre ces trois tentations et de faire abstraction complètement de ces voix qui vont lui dire tu as faim ou tu sais tu peux avoir des petits arrangements avec un tel ou tu sais tu peux avoir du pouvoir effectivement tu peux voilà et Jésus nous montre ça. Alors la végétation dans le désert est maigre hein, comme on le disait, sauf après les pluies de printemps. Il y a une caractéristique au pays de Jésus, c'est qu'après les pluies de printemps, au moment où les fleurs éclosent, c'est un paradis, le désert. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que on comprend pas toujours le passage de Isaïe chapitre 37 que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie parce qu'on a l'impression que c'est pour le futur. Et en fait, le désert est déjà un lieu où on peut contempler des merveilles, finalement, parce que dans mon intériorité, le Seigneur va me donner des grâces sensibles dès cette terre. Et ça, c'est la steppe. Dans la Bible, c'est désigné par la pluie. C'est le moment où le Seigneur vient visiter son peuple après le passage aride, en fait. Voilà. À chaque fois qu'on parle de la pluie dans la Bible, c'est un moment où le Seigneur nous visite et nous donne quelque chose de sensible, quelque chose dont on peut témoigner aux autres. J'ai eu une grâce particulière, j'ai eu une guérison, j'ai eu un frère qui a répondu à mes interrogations. Le Seigneur m'a donné un passage biblique qui m'a illuminé, etc. Voilà, c'est toutes ces petites lumières. C'est le moment où la grâce se fait visible. Alors en hébreu, c'est le mot midbar, désert. Donc il y a plusieurs manières de l'interpréter. Là j'ai cherché un peu. Min dabar, c'est-à-dire hors de la parole, dans le silence, hors du bruit, hors des préjugés. Voilà, je vais finalement faire le vide. Je vais faire une séance de yoga adaptée à la condition chrétienne. Quoi. Voilà, non pas pour faire le vide, mais pour qu'il y ait la place, pour que celui qui frappe à la porte de mon cœur puisse rentrer. C'est ça le désert. Deuxième manière d'interpréter midbar, désert, en hébreu, c'est ce qui sort de la parole. Ce qui sort de bon, c'est-à-dire je fais le vide et la parole qui va m'être donnée va faire sortir quelque chose de bon en moi. Et ce qui sort dans le désert par excellence, pour les Hébreux, c'est la manne, c'est-à-dire que le Seigneur va envoyer un pain céleste et dans ce lieu de désert, il va donner la manne. Voilà. Si je fais un parallèle avec... on avait parlé du jeûne, par exemple, pour se préparer à l'Eucharistie. Eh ben, c'est une manière de cultiver le désert, de jeûner, hein, et on demande une heure avant la messe, parce qu'en fait, comme il y a les deux tables eucharistiques, eh ben, il y a toute la première partie où on va écouter la parole, et si, c'est vrai que si on a jeûné un petit peu, si on a l'heure avant la messe, on a évité le bruit, on a évité la radio, on a essayé de ne pas... Finalement, s'il faut préparer le repas de midi, on a essayé de le faire avant l'heure qui précède la messe. L'heure qui précède la messe, on a essayé de faire tout en Jésus et de cultiver un désert dans son cœur, eh bien, il y a cette manne céleste à travers la parole qu'on entend et à travers l'Eucharistie qu'on va recevoir qui va être une grâce particulière qui va nous être donnée. C'est ce qui sort de la parole, voilà. Le désert va avoir une fertilité particulière. La pluie de printemps va pénétrer notre cœur d'une manière particulière parce que on aura cultivé ce petit désert. Soit, midbar, la bouche et la langue, c'est-à-dire ce qui résulte de notre attitude dans le désert, les choses qui nous sont données par la parole, toutes les grâces surnaturelles de pouvoir donner, de pouvoir parler, de pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement humain parce que la raison humaine voudrait qu'on dorme suffisamment et pas qu'on se lève la nuit pour aller adorer, qu'on mange suffisamment et pas qu'on se retienne un petit peu de manger en se disant comme ça je vais être en forme physique. Voilà, c'est ça que nous dit le monde. Il faut être en forme physique, il faut avoir bien dormi, bien mangé, avoir une vie sexuelle épanouie, il faut avoir il faut être plein à craquer et ensuite on va pouvoir faire des choses. Et ben la vie chrétienne c'est l'inverse. C'est la bouche et la langue, c'est-à-dire ce qui va sortir de notre bouche, les paroles qui vont nous être données et, ou qu'on va pouvoir formuler dans son intériorité, parce que ce manque, le Seigneur sera venu le remplir. Le Seigneur nous aura montré que cet acte de foi qu'on aura fait de ne pas se remplir de nourriture, de ne pas se remplir de sommeil, de ne pas se remplir de faire un petit jeûne de quelque chose, le Seigneur va lui donner une fécondité. Et on peut signaler aussi que la Palestine est isolée par des déserts à l'est et au sud. Voilà, ça c'est quelque chose de caractéristique. Le pays par excellence où il y a le peuple élu, et ben il y a deux déserts dans deux des directions, deux points cardinaux. Vous avez des déserts immédiatement juste après les habitations, quoi. Alors je fais un petit saut dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, qui parle de l'éducation d'Israël au désert. Alors, je vous ai imprimé la traduction œcuménique de la Bible, parce que bah, moi, c'est la Bible que j'utilise. J'aime beaucoup cette traduction, parce que il y a des grâces à la fois catholiques, protestantes, orthodoxes, ils ont un peu cumulé les grâces, voilà. Bien que le Seigneur, finalement, nous donne une Bible aussi en fonction de nos besoins. Donc souvent, la Bible qu'on reçoit, avec sa traduction propre, nous est vraiment adaptée. Voilà. Mais là, ce soir, c'est celle-là que j'ai retenue. Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir où tu allais. Oui ou non, observez ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas enflé depuis 40 ans, et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est premièrement, le désert, c'est un endroit où on fait du chemin. C'est-à-dire que c'est jamais un endroit où on est statique, c'est un endroit où on ressort édifié. Je prenais l'image de l'ascenseur, on a monté d'un étage, plutôt un escalier, voilà, on a fait un effort, et après on a une compréhension plus fine de ce qui nous entoure. Donc on a fait du chemin. On grandit suite aux épreuves, parce que celui qui est mécontent de notre croissance nous attaque. On y éprouve la grâce surnaturelle, ici c'est la manne, le Seigneur qui vient nourrir le peuple qui a faim et qui éprouve la pauvreté, et qui éprouve ce que c'est que d'être dépendant. Et on a aussi des grâces matérielles suite à notre détachement, à notre apprentissage de la pauvreté. Les grâces matérielles ici, c'est les vêtements qui ne s'usent pas. On va voir un petit peu ce que représentent les vêtements, mais c'est vrai que le désert est un lieu où on voit des choses qui ne s'usent pas. Par exemple, un certain nombre de personnes qui viennent adorer sur une heure de nuit, ils disent « mais c'est curieux parce que le lendemain, je suis très peu fatigué, alors que entre le moment où je me suis levé et le moment où je me suis recouché après mon heure d'adoration nocturne, il s'est écoulé peut-être une heure et demie, deux heures. Et pourtant, mon vêtement ne s'est pas usé, c'est-à-dire mon capital sommeil est resté intact. Il s'est passé quelque chose, et ça, c'est un vrai signe, en fait. Voilà. J'ai fait un petit acte de foi en disant « Seigneur, je t'offre ça, et tu m'as donné un vêtement qui ne s'use pas. » Et dernière grâce qui apparaît dans ce texte, c'est qu'on y découvre la paternité de Dieu. Ça, c'est dit à la fin. « Et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Donc on a un Dieu qui dit « Je t'aime » et on est très loin du Dieu de l'Ancien Testament, un petit peu mythique, dont beaucoup parlent en disant « c'est un Dieu méchant ». Là, c'est quand même un Dieu qui, comme un papa, hein, qui va dire « Vas-y, tu vas faire du vélo, je vais t'aider, je vais te lancer, j'ai des ambitions pour toi, ça va être difficile au début, tu vas peut-être tomber, mais je crois en toi, vas-y. » Voilà, Dieu, il fait ça avec nous. Et ce texte-là, je trouvais intéressant parce que quand on éprouve une période de désert, on a une tourmente dans notre travail, dans notre vie familiale, et le fait de le lire, c'est une manière de détecter en quoi ces différentes situations sont comparables à Dieu qui nous fait avoir faim, qui nous fait dépendre de lui et qui nous fait découvrir, et qui nous fait découvrir surtout avec les yeux du cœur, sa paternité et son amour pour nous. C'est le désert, le lieu de solitude, le lieu de refuge du prophète et le lieu des fils de la femme drapée de soleil. On a au chapitre 12 de l'Apocalypse la femme qui prend les ailes du grand aigle et qui fuit au désert. Un certain nombre de personnes disent c'est l'espérance et la foi qui permettent de voler dans ce lieu de refuge qu'est le désert. C'est-à-dire, je m'accroche au fait que Dieu, que je ne vois pas, existe bel et bien, et j'espère qu'il va venir à mon secours, et je pense au ciel déjà, et on va tous être ressuscités, et on va s'éclater, on va avoir des missions incroyables pour intercéder pour les gens sur la terre, et en m'accrochant à ça, je vais pouvoir descendre dans mon cœur, dans le petit escalier en colimaçon, et m'asseoir à côté du Christ qui est sur le petit banc en pierre, où on va se contempler et prendre un cœur à cœur mutuel, et ce désert-là est un lieu où rien ne peut m'atteindre, où je suis complètement en Dieu, et les critiques me glissent dessus. Ça va être un peu comme des cris extérieurs, quand vous êtes dans un lieu où la porte est fermée et vous avez senti une différence en passant la porte entre l'extérieur où on entend les bruits des motos, des bus, des gens qui crient, et l'intérieur où tous ces bruits-là sont assourdis. On les entend encore, mais ils ne nous perturbent plus. le désert.